Mais éventuellement, là, puis il y a des analogies qui sont faites avec les équipes sportives. Quand tu perds un centre de premier niveau ou un ailier de premier niveau, ben tu vas essayer d'en repêcher un nouveau pour compléter ton équipe.
Ouais. Alors, mais parfois, ça prend du temps à développer ce joueur-là. Là. Il ne devient pas un champion du jour au lendemain.
Ah, vous avez raison. Les analogies ont leurs limites, mais c'est clair que c'est un travail d'équipe. Puis qu'en économie, compte tenu de ce qui s'en vient, puis en énergie, compte tenu de ce qui s'en vient, ça va prendre une bonne équipe et on va avoir besoin de décisions rapides. Et c'est vraiment ça qui est l'enjeu cet automne. On va devoir traverser le projet de loi sur la réforme de l'électricité de notre stratégie électrique. Et ça, c'est majeur.
Oui, et ça va prendre de solides épaules, une solide carrure pour mener ce projet-là, notamment en commission parlementaire. Michel Leblanc, vous êtes président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi.
Bon après-midi et à une prochaine.
Politique américaine avec Valérie Beaudoin.
J'aimerais préciser, même si tout le monde le sait, que d'après les derniers sondages, elle est la favorite pour devenir la prochaine présidente des États-Unis.
Est-ce que c'est moi ou Kamala Harris la favorite?
Je pense que c'est Kamala Harris, mais je pense que c'est tiré d'une télésérie américaine que notre ami Richard a trouvé durant le week-end. Et elle a écouté ça pendant le week-end. Et c'est particulièrement bien choisi parce que c'est une phrase qui pourrait très bien aller dans le discours politique à l'heure actuelle. Alors, Kamala Harris qui continue de faire campagne, Valérie.
Oui, puis hier, bon, ce ne sera pas très original. C'était la fête du travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand tu es en campagne? Électorale, eh bien, on rencontre des travailleurs, hein? On rencontre des membres des différents syndicats parce que Kamala Harris essaie de courtiser le vote des membres du syndicat. Je te dirais que la majorité des syndicats sont derrière le Parti démocrate. Là, je te parle des gros syndicats, ils ont fait leur sortie et tout ça. Il y en a encore, dont Sean O'Brien, qui est président des Teamsters, qui lui... Ça branle un peu dans le manche. Alors, il était avec le Parti républicain, il était même à la convention. Il dit que c'est pas un appui à Donald Trump, mais il voulait envoyer son message.
Hein, si tu te présentes à la convention, à quelque part, ça ressemble pas mal à un appui, là.
Voilà. Mais il a démenti ça en fin de semaine en disant qu'il voulait juste qu'on se fasse... Il voulait pas que les syndicats se soient pris pour acquis par le Parti démocrate. Alors, c'était ça, sa démarche, de parler des travailleurs et qu'il allait voir à qui il donnait son appui, peut-être dans les prochaines semaines. Mais c'est surtout la nouvelle, c'est qu'elle était accompagnée de qui? Pour aller à Pittsburgh, en Pennsylvanie, elle était accompagnée de Joe Biden. C'était leur premier événement de campagne, parce qu'ils ont eu un événement ensemble depuis l'abandon de Joe Biden, mais c'est en lien avec le bilan à la Maison-Blanche, elle comme vice-présidente, lui comme président, mais là, c'était lui comme appui à la candidate qui, tu sais, qui parle en premier pour la présenter. On n'est pas dans le rôle hiérarchique du président et de la numéro 2. C'était vraiment à l'inverse. Et ce qui est intéressant avec ça, puis je sais que t'es un mordu de politique américaine, donc tu vas te rappeler de cet événement-là, c'est que Joe Biden, c'est un atout dans ce cas-là parce que c'est quelqu'un qui est près des syndicats à un point tel qu'il a été le premier président de l'histoire à être sur les lignes de pitage.
Ben ouais.
Dans le conflit et dans le secteur automobile qui a duré plusieurs semaines, les gens vont peut-être se rappeler des images. Écoute, t'as le président qui est sur place avec les travailleurs qui sont en grève avec leurs pancartes et tout ça. Ça a envoyé un message très, très fort en disant « Mais je suis le président le plus pro-travailleur. » Et le message qu'on envoyait hier, ben, c'est Kamala Harris est à côté du président qui est le plus pro-travailleur et elle va aussi travailler pour vous. Son VP avait aussi fait une tournée là, dans les dernières semaines pour aller courtiser les membres des syndicats pour leur dire « Mais OK, on a peut-être votre vote, là. Vous nous dites que vous allez nous appuyer, mais parlez donc à votre voisin, à votre mère, à votre sœur, à votre frère, à vos amis pour dire votez aussi démocrate. » Alors, c'est ça également la démarche de grande séduction en ce moment.
Valérie, ça veut dire que Joe Biden peut encore rendre un certain nombre de services à Kamala Harris, mais pas dans tous les États et à tous les niveaux non plus. Il faut que ça soit très, très ciblé.
Mais tu vas dans un événement avec des jeunes, ou l'événement qu'elle a eu en Georgie, où là, t'es avec, il y a des stars du rap, t'es avec plein de monde, c'est super dynamique, les gens dansent et tout ça. Je vois pas Joe Biden dans ce contexte-là. Puis là, je veux pas encore, je suis toujours sur la ligne, je veux pas faire d'agisme et tout ça. Sauf que c'est ces gens-là, ces jeunes-là qui reprochaient à Biden d'être déconnectés, hein, de pas être à l'écoute de leurs besoins, de pas se sentir reconnus dans la plateforme démocrate quand c'est Biden qui était à la tête du parti comme candidat. Mais là, c'est bien de détacher les deux, hein, d'avoir Harris quand elle peut briller elle-même. Mais dans un contexte comme ça, Je trouve que Biden, c'était une très bonne idée. Ça reste le président des États-Unis. On n'en parle plus beaucoup, là, mais ça reste le président actuel.
Puis, il est encore capable de faire des sorties. On l'a vu à propos de Benjamin Netanyahou hier, là, quand il a dit que Netanyahou, comme premier ministre israélien, n'en faisait pas suffisamment pour faire libérer les otages. C'était quand même une déclaration très, très forte là, du président envers le premier ministre.
Oui, parce que juste dit non. Juste ce mot-là peut être très fort. Il n'y a pas de mise en contexte, il n'y a pas de gants blancs. Il a juste dit non, il n'en fait pas assez. Puis je trouve que c'était un message assez fort.
Bon, tu veux nous parler de George Clooney?
Oui, encore une fois, là, je suis dans les plates-bandes de Catherine Beauchamp, mais je pense qu'elle a été dans mes plates-bandes aussi aujourd'hui.
Oui, elle a parlé de Donald Trump.
Fait que c'est correct, je me venge maintenant. Je parle du showbiz. Je parle du Festival international de films de Venise. Pourquoi? Parce qu'il y avait George Clooney qui présentait un film. Et il était là sur le tapis rouge. On a vu des images circuler pendant le week-end. Et il y a une journaliste qui lui a parlé d'un événement qui s'est passé cet été. Je dirais que c'est un événement assez important où George Clooney, dans le New York Times, a publié un éditorial en disant « Je suis un démocrate depuis toujours. J'ai toujours appuyé Joe Biden, mais là, c'est le temps de laisser sa place et d'avoir un autre candidat démocrate à la présidence qui est finalement arrivé. Mais c'est la première fois qu'il se faisait poser la question et voici ce qu'il a répondu.
The person who should be applauded is the president who did the most selfless thing that anybody's done since George Washington. And that's true. What should be remembered is the selfless act of someone who, you know, it's very hard to let go of power. You know, we know that. We've seen it, you know, all around the world. And for someone to say, I think there's a better way forward, that's all the credit goes to him.
Si je résume et je traduis, ils lui disent pas moi qui devrais être applaudi, c'est vraiment la personne qui a fait ce sacrifice-là, un acte très généreux, il dit un selfless act, donc quelque chose de pas du tout égoïste. Il dit le comparer à un geste qu'a posé George Washington quand lui a abandonné, disons, ses ambitions présidentielles après deux mandats à la présidence, pour rien de moins hein, quand même comme, comme comparaison. Et il a dit aussi que c'est difficile, on le sait, on le voit dans les autres pays, quelqu'un qui doit lâcher le pouvoir, le laisser de côté, et qu'il avait pris cette décision-là, donc il devait être salué. C'était quand même... parce qu'il y a des gens qui l'ont applaudi hein, dans la salle quand on disait, il a dit à Biden de quitter, mais il a dit non, attendez, c'est pas moi qu'on doit applaudir, c'est plutôt lui.
Il a salué le geste désintéressé de Joe Biden. Il a bien fait de le faire rapidement, Valérie, le temps file, mais on en a parlé dans ton durant le tour de table. C'est quoi cette histoire-là avec McDonald's et Donald Trump?
C'est pas une très longue histoire, alors je vais te résumer ça en deux phrases. Kamala Harris qui a dit dans des entrevues qu'elle avait connaissait ça justement, la classe moyenne, tout ça, qu'elle avait déjà travaillé chez McDonald's et même témoin, son candidat à la vice-présidence a fait une blague à un certain point en disant que c'est pas Donald Trump qui pourrait savoir comment faire un McFlurry. Alors, il y a eu ces références-là à McDo, mais finalement, c'est Donald Trump qui dit, on a fait des recherches pendant une vingtaine de minutes et on a déjà déterminé que Kamala Harris a jamais travaillé là, donc c'est une menteuse, c'est de la supercherie. Et là, je pense que c'est sa nouvelle obsession parce que sur Truth Social, il fait des montages photos avec McDonald's et le M doré, les arches dorées et Kamala Harris. Donc, on verra est-ce qu'il y aura un communiqué de McDonald's. Est-ce qu'elle a travaillé là ou non?
Les vrais enjeux. Les vrais enjeux en vue de diriger la plus importante démocratie au monde. Qui a travaillé chez McDonald's? Merci beaucoup, Valérie. Voilà,
merci.
On se retrouve demain. Au retour, Michel Boisvert nous donne sa perspective sur la démission de Pierre Fitzgibbon.
98.5, circulation.
Le pont Samuel Champlain de Turcot, Jacques Cartier, c'est à éviter. Manifestation sur le pont, c'est la congestion dans les deux directions. Tunnel La Fontaine avant Beaubien, c'est plus de 60 minutes de Mortagne en direction de Montréal. Pont Mercier, les bretelles de Lavin, 40 Est avant Cavendish, 40 Ouest. On est rendu avant le boulevard Saint-Charles pour le pont de l'île aux Tourtes. Et pour le pont Galipeau, c'est avant le boulevard Saint-Jean. Et à partir de Turcot également pour l'échangeur Saint-Pierre. Pont Charles de Gaulle, un peu avant Henri Bourassa, autoroute des Laurentides, Saint-Martin-Laval. Et entre Blainville et Mirabel, 13 Sud, Côte-de-Liesse, 13 Nord, Hickmoire. Et ça va bien pour le métro. Qu'est-ce qui distingue le Mazda CX-50 parmi tant d'autres? Découvrez son style, ses performances et profitez de 1 000 de boni Mazda pendant l'événement. Découvrez Mazda.
Dash-moi ce cahier de notes, cette calculatrice, ce sac à dos, ce...
Papa, j'apporte quoi comme dessert pour ma fête en classe?
Quel dessert?
Je te l'ai dit.
Ce mélange à brownie en boîte, cette douzaine d'œufs, ce papier parchemin, ce...
T'as oublié l'huile végétale.
Cette huile végétale, ce vinier, ce...
Qu'est-ce qui sont brûlés?
Dash-moi ces mini-muffins.
Mais William est intolérant au gluten.
Oh. Les offres de la rentrée scolaire, c'est dans le sac. Dash-moi ça et obtiens jusqu'à 30% de rabais sur les fournitures scolaires, l'épicerie et bien plus avec DoorDash. Les conditions s'appliquent.
Manuel, c'est à moins que rien.
Ouais.
Tu sais, là, nos travaux d'été, ben, ils sont pas mal en train de devenir des travaux d'automne, hein?
C'est vrai qu'il n'y a rien qui a bougé.
Quand tu dis qu'il n'y a rien qui a bougé, tu veux dire que nous, on n'a pas bougé. Mais là, il y a des promos pour la semaine roll-up.
Ouais, j'ai vu ça.
Ce serait le temps qu'on fasse honneur à notre nom, Manuel.
Je te trouve un peu baveux.
On est la même personne.
Ah, ben oui.
Ah oui, on s'en va chez Rona.
C'est la semaine Rona. Jusqu'à mercredi, le plancher stratifié Monocera Brun Scala est à seulement 99 cents du pied carré. Les conditions s'appliquent. Plus d'offres au rona.ca.
Aujourd'hui, Simone a offert des fleurs à Marie pour sa fête. Paul a nagé sa 150e longueur de l'année. Lisa a terminé son roman au feu de foyer et Françoise s'est délectée à la salle à manger. Et vous, votre retraite? C'est à votre tour d'en profiter. Venez nous rencontrer lors des portes ouvertes des résidences du groupe Maurice le 15 septembre de 13h à 16h. Pour plus d'informations, visitez legroupemaurice.com. Le groupe Maurice, vieillir, c'est vivre.
Avec le service Internet illimité de Rogers, maintenant disponible au Québec, vous pouvez faire face à tout pendant l'année scolaire, comme donner accès au Wi-Fi à vos enfants et tous leurs amis, ou les trouver devant un jeu vidéo et non devant leurs devoirs. Ce que vous voulez, c'est une connexion fiable et rapide juste à temps pour la rentrée, comme l'Internet de Rogers, maintenant disponible au Québec, à partir de $44.95 par mois pour un temps limité. Visitez rogers.com ou rendez-vous en magasin pour les détails. Rogers, là on jase.
C'est l'événement monture gratuite maintenant chez Grèche et Scaf. Oui, monture gratuite, un cadeau de jusqu'à $229 à l'achat de la paire complète. Jacinthe Laurando opticienne jusqu'au 28 septembre. Apportez votre prescription ou rendez-vous pour examen de la vue sur grèche-scaf.com.
La prévention du harcèlement psychologique et de la violence à caractère sexuel dans les milieux de travail, c'est l'affaire de tous. Des nouveautés ont été apportées à vos droits et obligations. Informez-vous dès maintenant sur les changements en vigueur et ceux à venir. Un message de la CNESST.
Ça va aller loin, ça va aller loin.
Ce soir, notre collaborateur Farnell Morissette se demande si on devrait donner le droit de vote aux enfants et un éducateur canin répond à toutes vos questions sur les chiens. À tantôt.
98.5 Montréal.
La chronique financière est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, les conseillers de Desjardins peuvent vous accompagner dans votre parcours financier.
Économie, maintenant.
Voici Michel Boisvert.
Salut Michel.
Bonjour Philippe.
Alors, on en a parlé la semaine dernière. On s'interrogeait sur la durée de vie au sein du cabinet de Pierre Fitzgibbon. On a eu la réponse aujourd'hui. Il a démissionné. Ta première réaction?
Ah, énorme surprise. Vraiment, je me demandais même, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une rumeur ou c'est vraiment vrai? Non, c'est... C'est un choc parce que on en avait parlé la semaine dernière. Je t'avais raconté que bon, dans le réseau des délégués, on parlait qu'il allait pas finir son mandat. On s'en doutait tous. Mais aujourd'hui là, à la veille de l'analyse de son fameux projet de loi de l'énergie, je suis vraiment très étonnée.
Est-ce que c'est un dur coup pour la coalition Avenir Québec selon toi?
Ah oui, ben c'est un ministre, on en avait parlé la semaine dernière. C'est un ministre, c'est un des poids lourds de ce gouvernement-là. Et qu'il s'en aille à ce moment-ci, c'est extrêmement difficile pour la CAQ. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, ça doit être un coup assez difficile à prendre. Je pense que le premier ministre commençait à s'en douter la semaine dernière. Il avait commencé à évoquer effectivement l'âge.
Il avait parlé de son âge, tout ça.
Mais c'est un très, 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 très dur coup. Ce ministre-là, premièrement, M. Legault et M. Fitzgibbon se connaissaient. C'était des amis, des compagnons de classe. Ils ont fait HEC en même temps. Donc, c'est des gens qui se connaissent de très, très, très longue date. Et quand finalement Fitzgibbon a dit oui, on est allé chercher quelqu'un de très, très grande crédibilité. Moi, ce que j'aimais dans Fitzgibbon, c'est qu'il n'est pas venu en politique pour faire de politique. C'était pas un politicien comme les autres. Lui voulait vraiment réaliser de grandes choses pour le Québec économique. Donc, il n'était pas sur le court terme. Les sondages ne l'intéressaient pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait un tel franc-parler et qu'il pouvait se permettre de dire des choses que d'autres n'auraient jamais dit. Moi, ce franc-parler-là me faisait du bien. Je trouvais ça rafraîchissant que quelqu'un dise ce qu'il pense et qu'il était là pour réaliser des choses, non pas pour le pouvoir. Il y en avait du pouvoir, il n'y avait pas besoin d'argent. Donc, c'était quelqu'un qui s'était dit, j'entre en politique pour faire des changements. Et il en a fait. Il a lancé de très grandes stratégies.
Michel, tu as été délégué général du Québec à Paris pendant 5 ans. Tu avais une mission très économique, là, au-delà de toutes tes autres tâches. Donc, tu l'as rencontré. Il a visité la délégation générale.
Oui. Il est venu, oh mon Dieu, à 3-4 reprises au moins à Paris, notamment la grande messe du Bourget. Le Bourget, c'est l'industrie aérospatiale, c'est à tous les 2 ans à Paris, c'est la plus grande rencontre de l'industrie aérospatiale au monde. Et on le sait, le Québec est très très fort en aérospatiale et il y a toujours une très grosse délégation de gens d'affaires. D'ailleurs, Michel Leblanc en faisait toujours partie. Et Pierre Fitzgibbon y était. Et moi, je l'ai suivi, par exemple, le premier Bourget. Je suis rentrée en poste en mai. Le Bourget est en juin. J'accueille Pierre Fitzgibbon. Et là, je l'ai suivi pendant une semaine. Et je le regardais aller très près des gens d'affaires. Il connaît ses dossiers. Et c'est très vrai que lorsqu'il veut faire déboucher quelque chose, il va se retrousser les manches et mettre la main à la pâte. Je l'ai vu rencontrer